de la radio. Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mona!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Il en manque un sur deux. C'est à se demander s'ils ont 50-50 dans ce pit stop-là, parce que quand il en manque un, ben le pit stop roule. Je sais pas, ouais. Denis, si tu t'appropries plus de pourcentage de réussite dans le pit stop.
En fait, ton calcul est pas bon parce que personnellement, c'est la dernière semaine avant Noël. Je suis à 50%, donc... Le pit stop sera à 25 % présentement.
OK, OK, ouais. OK. Donc, habituellement, clairement, on pourrait t'approprier plus de pouvoir.
Ce qui vous laisse à 2, 75 %, ce qui est quand même relativement équitable.
C'est bon.
Oui, parce que Jeff Fortin est là en l'absence de Yannick Marceau pour mon plus grand bonheur. Mon nom est Pascal CV et je suis, je dirais pas heureuse, non, parce que honnêtement, j'aurais pas pris ça avant les fêtes, puis je pense que lui non plus aurait pas pris ça. Remaniement ministériel du côté d'Ottawa. Vous le savez, la saga, la crise au fédéral. Est-ce que Justin Trudeau s'accroche au pouvoir? Ben, la réponse, tout le monde peut dire que c'est oui. Mais là, en plus, ben, il fait le branle-bas de combat à l'aube des fêtes. Et Pelay, on vient de l'apprendre dans les dernières minutes. Est-ce qu'on s'attendait à ça, Denis?
Pas vraiment. Il y a des gens qui théorisaient sur le fait que Justin Trudeau s'accrochait au pouvoir. Mais là, il reste qui autour de lui? Est-ce qu'il va s'approprier tous les ministères parce que plus personne veut jouer dans son carré de sable? Je sais pas, mais c'est quand même triste de voir que dans une période de faiblesse, puis on va le dire, c'est le président Donald Trump qui nous a montré sous notre vrai jour, c'est triste de voir que dans une période de faiblesse, le gouvernement est au plus faible qu'il a été depuis, mon Dieu, des décennies. Mm-hmm. Ça place pas le Canada dans une position enviable. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent profiter de ça d'une façon ou d'une autre. Et, tu sais, les prochains...
Mais c'est pas nous, par exemple.
Non, non, non. Ça, c'est autour de nous. Mais les prochains, please stand up. Moi, je trouve que Poliev est très discret dans la situation. Puis je peux lancer la balle aux bloquistes, aux gens du NPD et même aux gens à l'intérieur du Parti libéral. Si vous voulez connaître la suite et nous faire connaître la suite, je pense que le moment de sortir fort, c'est là. Même Freeland a fait une belle lettre, mais ce serait le fun de l'entendre un petit peu puis peut-être de l'avoir préparé la suite. Si c'est pas elle, c'est qui d'autre?
Souvent, les stratèges en politique vont dire que quand ça commence à se décrépiter puis à se démolir dans un côté de parti ou auprès d'un, bon, peut-être d'un ministre, d'un député, d'un le chef de parti, c'est aussi un moment où les gens n'aiment pas trop aller se mouiller pour ne pas revirer de bord le vent et eux se planter quand, mettons, la personne qui souhaite qu'il se plante le fait par elle-même.
J'ai hâte de voir en 2025, ça va être quoi les stratégies pour les gens qui aspirent à devenir ou à rester premier ministre. Est-ce qu'il reste un miracle dans la manche de Justin Trudeau? Je le sais pas. Mais pour le reste, s'il fait juste s'accrocher au pouvoir puis qu'il n'y a rien d'autre à jouer, c'est triste.
C'est très triste. Puis, tu sais, il a l'air à y croire, lui, à un miracle parce qu'il demeure en poste puis il va même faire un remaniement ministériel. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, c'est clair que Chrystia Freeland ne fera pas partie du remaniement ministériel.
On l'a compris, ça, oui.
Elle aussi, elle dit pas
François-Philippe Champagne, qui avait été vu par Justin Trudeau comme le prochain ministre des Finances après Mark Carney, oui. Puis il a choisi son grand chum Dominique Leblanc par défaut, après, par dépit. Lui aussi, il va aspirer à la chefferie du Parti libéral du Canada.
Monsieur Duclos, d'après moi, on ne l'entend pas beaucoup, mais il va sûrement regarder sa place et où dans tout ça. C'est un gars qui a fait beaucoup de tournées de médias avant même que la crise éclate, probablement qu'il était au courant qu'il y avait une crise à l'interne.
Ouais. Puis les gens qui seront nommés ministres, ben, vont être pointés comme des yes-men de Trudeau.
Exactement.
Les seuls qui restent et qui l'appuient encore. Ça ne veut pas dire que ça va être des ministres très forts.
Non, et ça ne veut pas dire que tu vas avoir une longue carrière politique par la suite.
Ça peut être un très court mandat de ministre,
oui,
on s'entend.
Exactement. T'sais, on a parlé avec Marc-André Leclerc, chroniqueur au Journal de Québec ce matin dans Rage Against le matin, puis on lui a posé la question, on a dit, si tu étais un conseiller spécial de Justin Trudeau, tu ferais quoi? Ben, ça ferait 6 mois, j'aurais dit de démissionner, fait qu'on est parti à rire.
Mais peut-être que ça a été fait au même titre que Chrystia Freeland a dit non pour l'échec, pour le congé de TPS, puis qu'il a fait, Chrystia, couche, panier.
Tu peux être entouré de gens qui te disent de faire la bonne chose, mais on vient peut-être de reconnaître l'ADN du père, il est un petit peu tête de cochon, Justin fils aussi.
Tu penses que c'est de père en fils?
Ben peut-être, peut-être.
Il y a Louis Gauthier qui est passé hier, chroniqueur international avec nous le midi, qui disait qu'il avait parlé à des gens qui avaient été dans la garde rapprochée du genre sécurité de la famille Trudeau, Trudeau père. Puis pour eux, c'était d'avoir donné à un enfant le pouvoir d'un adulte aux élections où Justin Trudeau a remporté. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais peut-être que c'est ça aussi le cas en ce moment.
Est-ce qu'une mutinerie ouverte pousserait pousserait Justin Trudeau à partir avant Noël?
Un putsch?
Rendu là, je pense qu'on va abandonner, on va partir en congé des fêtes, puis la suite en 2025.
Jeff Fortin m'a envoyé un texte ce matin que j'ai trouvé fort intéressant qui, habituellement, va pas vraiment attirer mon attention. Je vais le lire en diagonale, mais là, il y a comme tellement de choses là-dedans. Jeff, t'as envoyé un texte qui s'intitule « Visite du Canadien à Saint-Pétersbourg. Bourg, hey, ça va passer, il reste deux jours. C'est odieux et très condamnable. » Je le trouve super intéressant parce qu'on sort du sport puis c'est à se poser la même question quand il y a un artiste qui est condamné ou encore au criminel, mais que toi, tu tripes sur son œuvre. Est-ce que tu t'en vas voir ses spectacles par la suite ou tu es une personne finalement qui endosse ce genre de comportement? Jeff, si tu peux nous résumer un peu le texte.
Bien sûr.
Ça fait réfléchir.
C'est Ken Hughes, le directeur général du Canadien de Montréal, avec son conseiller spécial Vincent Lecavalier, qui se sont retrouvés nul autre qu'en Russie dans la dernière semaine pour aller voir l'espoir Ivan Demidov, qui a été repêché en première ronde du dernier repêchage Ligue nationale, cinquième au total par le Canadien. Alors, on s'en va là, on s'en va voir son développement, ce qui se passe avec le jeune homme, c'est quoi ses points forts, on va parler avec son entraîneur, tout ça. Ce qui fait scandale, c'est qu'on se retrouve en Russie en pleine guerre contre l'Ukraine, alors que le Canada combat la Russie aux côtés de l'Ukraine.
Et que déjà aux Jeux olympiques, c'était une question qu'on se posait à savoir, est-ce qu'on va avoir des athlètes russes, par exemple? Tu sais, c'était déjà une question mondiale.
Exactement. Et on prend des photos tout sourire à côté de gens très influents auprès de Vladimir Poutine. Donc, c'est ce qui soulève l'ire de plusieurs personnes, dont justement le chroniqueur dans le Journal de Québec, là, Loïc Tassé.
Puis ajoute à ça, il y a eu une semi-polémique à un moment donné, en début d'automne, parce qu'il y a eu des chroniqueurs voyages, puis tu sais, des gens qui parlent souvent d'explorer le monde et autres qui sont allés à Dubaï, connaissant les droits humains. Mm-hmm. Puis dans une période où on en parlait beaucoup, ils se sont fait fusiger un peu de critiques négatives en se disant, voyons, vous pouvez pas endosser ça parce qu'on vous offre un voyage gratuit.
Le Canadien qui s'en va en Russie voir un espoir qui lui appartient, c'est une décision hockey qui n'a rien à voir avec la politique. Ma première réaction ce matin en lisant ça, c'était comme de dire, ben aucun rapport, là, je veux dire. Eux autres, ils font du sport, puis ils s'occupent de leur franchise, puis ils s'occupent de leur équipe, et ainsi de suite. Mais le diable est dans les détails, puis les détails, c'est qu'en Russie, ils servent de tout ce qu'ils peuvent se servir pour crédibiliser leur gouvernement et crédibiliser leur tentative d'invasion en Ukraine. Le Canadien a probablement manqué de perspective quand ils se sont dit « ben on y va, c'est du sport, puis nous autres, on fait pas de politique. »
Tu penses qu'ils sont arrêtés à ta première réaction à toi?
Et je pense que le Canadien ferait bien de faire un statement, puis de le faire fort aujourd'hui en disant justement « nous autres, on a pris une décision sportive d'aller voir un de nos espoirs. Notre voyage, bon, il est fait. On peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Par contre, on peut vous dire que c'est pas un statement politique, c'est pas un statement pro-Russie. Au contraire.
Puis on le crie haut et fort. Moi, je me demande si on n'aurait pas pu faire venir le gars. On veut voir ses compétences, parfait. Mais on n'ira pas dans votre pays, parce qu'on ne peut pas payer pour. Ouais, tu le fais venir. Aussitôt qu'il y a un trou, aussitôt qu'il y a un moment où tu peux l'amener. Je ne sais pas si ça se fait, les gars,
Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec les contrats, de la façon que ça fonctionne. Il est sous contrat présentement dans la Ligue professionnelle de Russie. Et il y a des ententes entre la Ligue nationale et cette ligue-là qui font en sorte que les joueurs ne peuvent pas voyager d'un côté.
Fait que je suis vraiment pourri, c'était pas une option.
Mais est-ce qu'on... tu sais, l'argumentaire qu'on prend des fois pour les voyages du maire puis du premier ministre, régler ça sur Internet... Ça fait-tu pour le Canadien aussi? Peuvent-tu le regarder jouer sur Internet?
Bien, c'est que ça aurait pu faire pour le Canadien parce que c'est ce que les Flyers de Philadelphie ont fait l'an passé avec Matvei Michkov.
OK.
Ils ont travaillé le dossier à partir des États-Unis avec Michkov sur, appelle-le Zoom ou Teams, là. Et ils ont parlé avec les entraîneurs là-bas, avec la direction d'équipe là-bas, pour l'amener en Amérique du Nord cette année. Son contrat n'était pas terminé dans la KHL, donc les Flyers ont payé une pénalité à l'équipe de la KHL, mais ça s'est tout fait à distance, justement, parce que l'organisation des Flyers, avec à sa tête Daniel Brière, avait décidé de ne pas aller faire ce voyage-là en Russie.
Si j'avais été le directeur général du Canadien, j'aurais probablement pas pensé aux implications non plus.
Parce que c'est émotif, puis aussi, tu es au contrôle de ce machine-là.
C'est la responsabilité, ouais, peut-être des gens autour, ou oui, même des gens eux-mêmes, justement, de voir un petit peu plus large, puis de voir qu'est-ce que ça... Tu sais, le Canadien, quand il s'associe, mettons, à une marque, ils regardent toutes les possibilités, positives et négatives.
Clairement.
Quand ils invitent quelqu'un à chanter l'hymne national, ils vont penser aux retombées positives et négatives.
Moi, à l'Assemblée nationale, quand on invite un ancien nazi, par exemple, il paraît qu'il y en a qui l'échappent.
Oui, mais dans le cas de l'organisation, oui, du Canadien, font très bien leur devoir. Avant de donner un joueur en entrevue, ils vont vérifier le média, ils vont vérifier. Donc, c'est une organisation qui fait ses devoirs quand c'est le temps. Là-dessus, ils n'ont pas fait le devoir, puis ça tombe dans leur cours. Moi, j'aurais juste pensé sport puis hockey, mais je m'attends à ce que quelqu'un autour...
allume les lumières.
M'envoie un drapeau pour dire « Hey, c'est peut-être pas une super idée
puis,
actuellement. »
Quand je regardais les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui sont pro-sport, puis que pour eux, c'est ça l'essentiel de la nouvelle. C'est juste « Hey, non, mais on va aller chercher des joueurs si on en a besoin. »
Ma première réaction de gars qui suit le hockey, c'est de dire ça, mais aucun rapport. Mais on est supposé d'être mieux que ça en 2024.
Puis les commentaires, là, il y en a. Là. Ça serait terriblement hypocrite de ne pas y aller. Quelqu'un qui dit on a des Russes dans la Ligue. Quelqu'un d'autre qui dit... En plus, c'est des gens comme nous et pas des soldats ou des politiciens ou en politique. Mais je suis d'accord avec Denis pour eux. Le deuxième cerveau qui a eu à être allumé dans cette situation-là était super important. Puis tu sais, ça nous ramène à ces questions-là de géopolitique. On va avoir à gérer pas mal dans les prochaines années, dans les prochaines décennies par rapport aux grands mouvements mondiaux qu'on a eu, que ce soit sportif, que ce soit culturel, que peu importe l'issue de ça, ça va changer. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il va falloir qu'on se pose ces questions-là éthiques. On s'est posé lors des grandes guerres mondiales, mais vous, un athlète, par exemple, qui est né en Russie, qui performe, est-ce qu'il doit être pénalisé parce qu'il vient d'un pays où c'est problématique côté chefferie et proposition et ou commandement politique?
T'sais, dans le sport puis le spectacle, c'est beaucoup plus facile qu'en politique de dire « ça ne nous concerne pas ». Mais je pense que ça vient de notre génération qui a été privilégiée parce que des guerres mondiales, nous autres, on n'a pas vécu. Des atteintes à notre sécurité réelle, on n'en a pas vécu. On a eu le traumatisme du 11 septembre 2001, mais on perd le concours là, versus ceux qui ont vécu le Vietnam, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là savent que tu ne peux pas dire « ça ne me concerne pas ». Nous autres, avec la sécurité relative qu'on a vécue toute notre vie depuis notre naissance, on a acquis ce luxe-là de dire « Ouais, le sport, c'est le sport, puis la culture, c'est la culture. » Mais c'est parce qu'il faut comprendre que les dirigeants se servent de ça. Quand la WWE organise deux galas par année en Arabie Saoudite, ils font un statement politique. Oui. Puis ils ont bien beau se débattre de dire que non, t'acceptes les milliards d'un empire qui brime la liberté d'expression des médias, des femmes, des homosexuels et ainsi de suite. Tu collabores avec des gens comme ça? Oui, mais c'est pour le spectacle. Les gens le méritent. On a des femmes qui luttent. Bon, sont habillées en wetsuit, mais...
Ouais,
mais
c'est ça.
Il y a une hypocrisie là-dedans.
Tellement.
Je pense qu'il faut dénoncer de plus en plus, puis je pense que ça vient du fait qu'on a été très gâté au niveau de la sécurité.
Et cette hypocrisie-là est là dans le sport parce que c'est l'argent qui mène le sport. Et là, tu parles de la WWE. Ouais. En 2034, le championnat mondial de soccer de la FIFA va se retrouver en Arabie Saoudite.
C'est un statement politique.
C'est un statement aussi, ça n'a pas de bon sens.
Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Puis on en parle depuis 5 ans de ça, là, de ce choix-là, au moment où on a appris que c'était dans entre les branches la possibilité d'eux, puis qu'ils ont commencé à sortir les enveloppes et les chèques en blanc, là. Tout le monde se tournait en disant, OK, mais en même temps, là, du côté là, de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous avez vu, mais il commence à se monter une ligue, OK, en donnant les meilleurs salaires de l'histoire. C'est des salaires qui sont démentiels. Mm-hmm. C'est des salaires qui sont inatteignables dans le sport, mis à part là-bas, parce qu'ils justement, ils veulent se monter une équipe qui va, bon, aux yeux du monde, être assez exceptionnelle pour la suite des choses. Puis des joueurs comme Lionel Messi avaient été convoités, avaient été demandés.
Ronaldo est rendu là-bas.
Ronaldo a choisi de le faire. Je m'en allais là, puis il a été critiqué pour ça. Là, après, est-ce que le joueur a aussi un code d'éthique qu'il doit appliquer et qu'il doit défendre? Selon mon opinion, oui.
C'est parce qu'eux autres, même s'ils décident qu'ils ne jouent pas la game, de l'autre côté, ils la jouent.
Ben oui.
Fait que même si tu dis, moi, ça me concerne pas puis je vais chercher les milliards, c'est parce que de l'autre bord, ils ont les deux bras dans les airs puis ils disent, on vient de gagner un appui politique de taille.
Et on gagnera pour la suite des choses parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont dire, ben si Ronaldo est allé, moi aussi, je peux y aller. Puis je veux juste terminer mon propos par rapport à ça. Il y a aussi la problématique de faire en sorte que le sport devienne tellement marketing, tellement économique. À la base même, le soccer, pour moi, c'est un des sports où tout le monde peut jouer, que ça rallie le monde entier parce que ça te prend juste une garnotte que tu vas botter. Mm-hmm. Ça fait en sorte que ça donne de l'espoir à des pays d'Afrique, à des pays qui n'en ont pas d'espoir autre que jouer avec la garnotte sur un terrain, d'avoir des athlètes puis d'avoir une fierté. Tu vois, ces gens-là, là, le soccer puis ces regroupements-là sont plus qu'essentiels. C'est une façon de vivre. Ça donne envie de vivre. Ça donne envie d'aimer notre pays. Si tu regardes culturellement parlant, ça en a sauvé beaucoup. On parle de sport, mais là, ça s'en vient un peu changer la donne.
On normalise tellement vite. Moi, je me souviens, le premier gala de la WWE en Arabie Saoudite, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Moi, ces galas-là, là, je paierai pas pour puis je les regarderai pas. »
Là, tu parles de lutte, je m'excuse.
C'est la même chose.
OK, OK.
C'est exactement la même chose. Puis deux galas plus tard, c'est rendu normal. C'est rendu juste un gala parmi d'autres sur le calendrier. Les ligues de soccer, c'est la même chose. Les tournois de golf, les grands prix, je veux dire. Tu peux... on normalise tellement vite leur présence dans un horaire, dans un agenda, dans notre normalité. Puis en passant, moi, je fais pas la leçon au monde. Hein. Probablement qu'être Ronaldo, là, j'aurais pas privé ma famille de tous ces milliards de dollars-là.
Tu penses que tu aurais pris cette décision-là?
Écoute, j'espère que j'aurais été suffisamment sensibilisé, mais...
On n'est pas à l'abri. Tout le monde aurait pris.
Non,
là.
Absolument pas.
T'es pas Tiger Woods ni Rory McIlroy. Eux, ils ont refusé parce qu'au golf, je fais une parenthèse rapide, l'Arabie Saoudite, c'est parti sa propre ligue, la LIV Golf, et d'ailleurs, qui joue beaucoup de tournois sur les terrains de Donald Trump, en passant,
ouais.
si on veut parler politique. Et ça a mis à sec la PGA, parce que la PGA offrait puis là, des bourses, mais selon si t'es un bon joueur, tu vas aller chercher maximum 20-25 millions par année. Tandis qu'en Arabie Saoudite, ben, tu signes des contrats de 115-120 millions par année. Mais Tiger Woods a toujours refusé de le faire. Il s'est fait offrir un contrat d'un milliard, puis il a dit « Moi, je ne le fais pas ».
Ça, c'est inquiétant, parce que tu te dis, ben, ils vont finalement, si tout le monde se met à accepter, ils deviennent les meilleurs dans tout aussi. Il n'y a plus de ce sentiment-là de se... de se dépasser en tant qu'équipe, se dépasser en tant que pays, se dépasser en tant qu'espoir qui sont de chez nous. On sait qu'on va les perdre au profit d'un chèque en blanc. Puis je pense que je suis de la... Peut-être que Denis, tu vas dire, « Hey, toi, je te crois pas une seconde. » Mais je pense, mettons, à 90 % que j'aurais refusé. À cause de ça, j'aurais été stupide, fort probablement, aux yeux de bien du monde. Mais ça... Je sais pas, il y aurait peut-être le 10 % qui aurait prévalu à un moment donné, mais...
C'est dur de caler la shot d'avance parce qu'on vivra jamais cette offre-là.
Non,
nous trois, là... Je pense pas vous donner un scoop.
Je vais pas vous décevoir, Jimmy Pascal.
Mais tu sais, moi, je me dis, la proximité forcée ferait en sorte que ces gens-là réfléchiraient peut-être un peu plus. Puis je donne quelques exemples ici et là. Si toi-même t'as combattu dans une guerre, puis t'as vu c'est quoi se défendre puis se battre pour la liberté, si t'as perdu un membre de ta famille dans une guerre qui a opposé la liberté à des religions radicales ou à des pays qui voient pas ça de la même façon que nous autres, t'as passé à travers le décor en carton-pâte dans lequel on vit, nous autres, depuis qu'on est nés, un décor qui nous rassure puis qui fait en sorte que plusieurs, peut-être moi aussi, on tournerait le dos à dire « Moi, je fais pas de la politique, je fais le meilleur choix pour ma carrière, je fais le meilleur choix pour mes finances. » Mais si on jouait notre game comme faut, nous, les démocraties, bien, on tournerait tout le dos. La WWE serait pas là, les golfeurs seraient pas là, le soccer serait pas là. Mais la vie étant ce qu'elle est, money talks, hein, qu'ils disent.
Ouais, c'est
fait
ça.
Mais c'est triste de voir où le sport pourrait se diriger à l'avenir. T'sais, après ça, ça va-tu? Puis là, c'est tellement douteux où je m'en allais. Je vous jure, je m'en allais dire, mais ça va peut-être donner une ligue ou comme le Rouge et Or qui a mené pendant des années. On va le voir dans d'autres sports, mais il faut juste pas que ça soit au profit de l'argent. Le Rouge et Or, c'est au profit du talent. C'est le talent qui est là. C'est le talent à l'Université Laval depuis longtemps au football. Là-bas, ce serait juste l'argent qui aurait mené à créer la meilleure des équipes. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Vous pouvez commenter en 88-971-1021. Vous le faites depuis le début. Puis on voit la dichotomie totale, puis même le déchirement. Puis pour d'autres, juste le fait d'assumer que c'est super complexe pour eux de se dire « Ah! » Je comprends, mais mon sport, mon équipe, je veux joueur. C'est tellement émotif.
Puis je sais que ça gosse plusieurs personnes là, que maintenant, des entreprises ou des organisations politiques ou même des individus doivent avoir une responsabilité au niveau de leur société. Là. C'est un nouveau concept. Là, il y a 25 ans, on n'était pas de même. Là, on est de plus en plus nombreux peut-être à regarder le big picture et à se dire... Oui, le Canadien a manqué de jugement en allant là-bas, puis ainsi de suite. On est très protecteurs de nos organisations, particulièrement quand on est partisans. Moi, le premier, Je veux dire, quand je reprends mon exemple de la WWE, moi, j'ai embarqué dans leur baratin de dire, ben c'est une bonne chose, on leur donne un petit goût de liberté, puis les gens qui sont nés là-bas, c'est pas de leur faute, ils vont en profiter. Puis finalement, tu regardes autour du ring, puis tout ce que t'as, c'est des tables avec de riches émirats, puis leurs turbans, puis leurs affaires, ouais. Puis tu te rends compte que le reste, c'est une grosse mascarade. En 2024, ça fait partie, puis je le répète, le Canadien le fait pour toutes. Nous autres, on demande d'avoir un joueur en entrevue. Ils vont scanner Boulevard. Ils vont vérifier. Y a-t-il un animateur controversé?
Bon, ils voient que Jeff Fortin travaille. Laissez faire pas d'entrevue.
Ça scanne-tu ses sortes de Buffalo à Boulevard? Ce genre de choses-là. Ils le font pour tout, le Canadien. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pour ça? La réponse leur appartient. Moi et eux autres, je répondrai rapidement avec un statement de dire « On a manqué de jugement. » Il est trop tard, on ne peut pas reculer l'horloge. Mm-hmm. Ce n'est pas un statement politique qu'on a fait, on est allé voir un espoir. Juste faire la distinction entre les deux.
On veut au moins
le
mettre noir sur blanc.
Oui, ouais. Pour que ce ne soit pas récupéré, ça va l'être de toute façon. Mais ici, au moins, tu vas faire la part des choses.
Puis ça va peut-être allumer des lumières à d'autres équipes aussi. Peut-être. Ben, ouais. Peut-être. Hein, si on est... Oh mon Dieu, qu'on aime ça voir ça avec des lunettes roses. Ça m'amène sur un autre sujet, mais... C'est un peu connexe, l'effet de foule. T'sais, souvent, on dit, plus on est de monde dans une foule, plus le quotient intellectuel de cette foule-là descend. On pense à des émeutes du côté, tu en as vécu une, toi aussi, tu as vécu Woodstock. Tu as vécu, toi, l'émeute à Montréal, je pense?
Non, j'ai vécu Woodstock 99, ça m'a marqué à vie.
L'effet de foule, toi, tu l'as vécu?
Oui, le vrai effet de foule, là, on l'a filé, on a eu la chienne.
Les gars, je trouve ça super fun. Il y a une nouvelle exposition du côté du Musée de la civilisation qui s'appelle... Les foules, aussi simple que ça. Puis on va un peu défaire le préjugé négatif qu'on a envers les foules. Un, que ça asphyxie le monde. Deux, que ça réduit le quotient intellectuel. Ça n'enlève pas totalement ça. Mais on dit que, selon des chercheurs, la foule est pas bête. Okay? Il y a beaucoup d'intelligence collective dans la foule, même que les gens ont plutôt tendance à s'entraider qu'à se nuire. Puis là où je veux faire le parallèle, moi, c'est dans des shows punk, rock, metal, où je trouve que ça se passe beaucoup mieux que dans des shows pop, même ballades et autres que j'ai déjà vues, où le monde pense encore plus à leur petit nombril, tandis que où ça brassait, combien de fois dans un mosh pit le monde s'aide, se relève, t'as ta paire de lunettes qui est tombée, quelqu'un va t'adonner.
Demande à la sécurité du festival d'été, c'est quoi les spectacles qui leur causent le plus de problèmes. Ils vont te répondre Gilles Vigneault, ils vont te répondre Charles Aznavour, c'est des cauchemars à gérer. Pas mal plus qu'un show de Rammstein ou qu'un show d'Iron Maiden. Puis je suis pas surpris de ça. La foule, si tu t'en occupes bien, puis s'il n'y a rien pour la faire paniquer, la foule va être intelligente. On l'a vécu à de multiples reprises à Québec.
Ben moi, j'étais là au Foo Fighters.
Très bon exemple.
J'étais là à Imagine Dragon. Mm-hmm. Tout le monde est sorti dans le can.
Sagement,
les indications sont claires. Tout le monde quitte très calmement. Puis en même temps, tu sais... On est là et on comprend bien pourquoi il n'y a plus de spectacle.
Pour reprendre l'exemple de Woodstock 99, excellent documentaire sur Netflix que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. La foule à Woodstock 99, il n'y a personne qui leur parlait. Il n'y avait pas d'organisateur, il n'y avait pas de contact. La bouteille d'eau était 8 US. Après la première journée, l'eau courante, t'en avais plus. Des toilettes chimiques, ils étaient toutes rendues sur le cul. De la bouffe, ils en ont manqué. Il y avait des rumeurs que les Beatles survivants allaient se reformer à la fin pour se faire pardonner, puis tout. Il n'est rien arrivé. La foule s'est faite bullshitter pendant 3 jours. La rage, elle vient pas de la foule. La rage, elle vient d'une mauvaise organisation qui s'est pas occupée de la foule. Au festival d'été, on a toujours bien encadré les foules. C'est l'organisateur du festival d'été qui est une figure publique souvent qui sort. Tu sais, moi, je me souviens, au Foo Fighters, c'est Daniel Gélinas.
Ben oui, c'est Daniel Gélinas qui est sorti sa scène.
Que tout le monde connaissait à Québec. Puis qui dit, regardez, boys, le show est fini. C'est pour la sécurité du band. Il y a un gros orage qui s'en vient. On vous demande de quitter. C'est pas ça qu'on voulait, mais on n'a pas le choix. Puis moi, je me souviens, je voyais tout le monde partir. Puis il y a un gars qui était fâché. On était plusieurs à être déçus, à être fâchés. Puis il y a un gars qui a pris une bouteille d'eau puis qui s'est préparé à la lancer. Il y a 3 autres gars qui ont pogné le bras et disaient « Hey, garçon,
c'est assez. »
La foule peut être intelligente.
Elle peut être intelligente. Puis je trouve ça intéressant comme exposition. On dit qu'on va aller, si tu veux y aller. Toi, Denis, je sais que t'aimes pas tant les foules.
Je déteste les foules.
Tu les fuis le plus possible.
Le plus possible.
Peut-être que tu vas vouloir aller au Musée de la civilisation parce qu'on a créé des foules du type rassemblement sportif, religieux, des foules de type manifestation, de rue piétonne, de mouvements collectifs sur les réseaux sociaux. Tout y passe, puis on les a créés en genre de grandeur nature.
Non, moi...
Même en statut, même en ambiance.
Si je veux vivre mes cauchemars. Je mange une pizza avant de me coucher. Ça coûte la pizza, puis après ça, je suis correct.
T'as eu du bonheur un peu avant.
J'aime vraiment pas les foules. Je suis agoraphobe un petit peu.
Mais ça pourrait t'aider, là, Denis.
Je pense
là.
Pas. Mais je suis rendu à un âge où je dois connaître les combats à livrer, puis ça, c'en est pas un.
Tu connais tes vulnérabilités et tu vis avec.
Oui, puis je vis très bien avec ça.
Mais je trouve ça intéressant, parce que on va passer à travers divers types de foules, si ça vous tente, c'est au Musée de la civilisation, puis essayer d'amener de force Denis Gravel. On termine le petit top de ce jeudi-là avec l'élément du jour, le potluck. Ici, à Boulevard 101, c'est le dîner potluck. Je vois tes yeux. T'as l'air
ébahi,
content.
Non, c'est parce que j'ai pas participé.
Encore?
Ah, ben, ouais.
Puis tu vas-tu aller darder dedans?
Non, absolument pas.
Pourquoi? T'as eu ça? Écoute, on a fait un genre de pari, là, ouais. Jeff et moi, en ouverture d'émission. Pourquoi, Denis?
Ben, c'est juste une gestion d'horaire. J'ai une entrevue avec le maire à 16h que je veux absolument compléter. Okay. Entre midi puis midi et demi, j'étais avec vous autres. Okay. Je sais ce que c'est, ces repas-là, ça part toujours avec un peu de retard. Puis ma blonde m'avait fait dégeler un de mes chilis que je m'étais fait à moi-même. Fait que c'est un alignement d'étoiles qui fait en sorte que j'ai mangé avant tout le monde, j'ai plus faim... Puis, il y a plein de belles choses sur la table. Leclerc Communication n'a pas besoin de mes mauvaises recettes pour passer un très beau moment. Les tables sont garnies, tout le monde participe, c'est super. Un jour, je vais faire quelque chose.
Ah ouais, mais ça là, serait les... quoi, Denis? Les... Mettons ta recette, toi, de potluck.
Écoute, ça va être un chili. Ouais. C'est le seul truc montrable que je peux faire. Ouais. Je suis très fier de mon chili, mais je ne suis pas fier de grand-chose d'autre.
On parle de quoi avec le maire cet après-midi?
On va passer le plus grand nombre de sujets possibles. Juste cette semaine, là, il y a énormément de questions à répondre. D'ailleurs, Jeff, Pascal et tous les auditeurs, si vous avez des questions pour le maire Marchand, gênez-vous pas. Il est à 16h en studio avec nous autres normalement. Quand le maire Marchand vient, c'est rare qu'on ait une limite de temps. Puis si on a une limite de temps, elle est très étendue. Ça veut dire qu'on a le temps de les poser vos questions, fait que gênez-vous pas.
Et s'il y en a une cette fois-ci, ça va parler aussi de comment ça se passe à l'hôtel de ville pour son équipe. Il y a peut-être une question que j'aimerais ça que tu y poses.
Oui.
J'aime beaucoup me poser la question. Si moi, je me rencontre en ce moment, OK, est-ce que je deviens mon ami? Est-ce que j'aime ce que j'offre en type de personnalité, en type de bienveillance envers les autres, en type d'attitude, peu importe. Si je me rencontrais aujourd'hui, est-ce que je serais mon ami? Là, on pourrait peut-être y poser la question. Monsieur Marchand.
Je viens de me poser la question à moi, puis ma réponse est probablement non.
Là, tu pourrais élaborer sur pourquoi, mais je sens que ça t'appartient, tu sais. Mais Monsieur Marchand, si vous vous rencontreriez en ce moment, est-ce que vous donneriez le mandat de la mairie de Québec?
Ouais.
Comme ils disent.
Ouais, c'est philosophique. Je n'haïs pas ça.
Tu verras si tu l'utilises. Là. C'est vraiment ton show, mais on manque pas ça. À quelle heure exactement? 16h?
Normalement, c'est 16h.
Parfait. Merci, Denis Gravel.
Thank you, amis.
À cet après-midi. Toi, Jeff, tu restes ici.
Yes.
Même si les saucisses dans le bacon t'appellent.
Moi, je vais aller dans le pigeon coupe, par
exemple. C'est correct, ça. Ben oui. 102.